Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani, il est 18h, mesdames et messieurs, bienvenue au journal dont voici les titres. Le réaménagement partiel du gouvernement est diversement apprécié par la classe politique, si pour certains l'entrée des technocrates comblera les attentes, pour d'autres elle est futile. La Premier ministre inquiète déjà à l'intérieur du pays. Des citoyens experts exhortent le gouvernement à prendre vite des dispositions pour combler le vide humanitaire que pourrait laisser la mission onusienne. Cannes Maroc U23, le Mali affrontera ce mardi en demi-finale l'équipe marocaine. Le sélectionneur des Aiglons aborde cette rencontre avec confiance. Voilà pour le sommaire de cette dernière édition de la journée qui vous sera présentée par Imran Akilomaya, la mise en onde Gagné Kanté. Je le disais dans le titre, le changement opéré dans le gouvernement continue d'alimenter le débat à Bamako et à l'intérieur du pays. La classe politique estime que les ministres rentrants sont pour la plupart des technocrates méconnus. Elle reste cependant divisée sur l'opportunité de ce remaniement partiel du gouvernement de Choguel Kokala Maïga, Mahamadou Samaseko.
Ce remaniement ministériel est un non-événement, estime le parti de la Convention pour le développement du Mali. Les responsables affirment qu'ils ne sont pas certains que ce changement puisse régler un quelconque problème, si ce n'est de l'exacerber. Alassane Abba, secrétaire général de la CODEM.
On ne voit pas comment ce remaniement en soi va apporter la solution au problème gravissime que vit notre pays. C'est pourquoi on n'en fait même pas un événement. Très sincèrement, on a analysé les hommes et les femmes. C'est ceux qui sont au pouvoir, qui ont des acquaintances avec eux, qui connaissent les compétences des uns et des autres.
Le parti CPM, Convention pour le Mali, apprécie l'effet surprise de ce remaniement. Il émet cependant des réserves sur les changements opérés dans certains portefeuilles ministériels. Oumar Diarra, membre de la Convention pour le Mali CPM.
Nous avons été surpris par ce remaniement ministériel. On était habitué à avoir des ténèbres, des informations à la base. Mais cette fois-ci, la distribution a prévalu. On sait qu'il y a une bonne chose. Et les changements de certains portefeuilles posent des questions quand même. C'est le cas du ministre de l'Éducation. Elle a réussi à faire des examens les plus transparents qu'on n'avait jamais organisés ces dernières années. Le changement de son poste a vraiment surpris beaucoup de gens.
Rappelons que depuis sa prise officielle de pouvoir le 7 juin 2021, ce remaniement est le premier du genre opéré par la transition dirigée par le colonel Assimi Goïta.
Ce remaniement gouvernemental est aussi différemment apprécié par les Maliens de Kaya Gao en passant par Ségou. Si pour certains, la nouvelle équipe relèvera le défi lié à la cherté de la vie et le retour de la paix et la réconciliation, pour d'autres, leurs attentes sont focalisées en cette saison hivernale sur le nouveau ministre de l'Agriculture. Écoutons leurs réactions au micro de Sali Sissoko avec l'appui de nos correspondants locaux.
J'ai beaucoup apprécié ce remaniement parce que vraiment, il y avait certains ministres qui ne méritaient même pas leur place. Je ne disais pas qu'ils sont pas bien, mais il y a aussi des personnes qui sont mieux placées pour mieux mériter ces postes que eux.
C'est assez gros, parce que c'est un gouvernement de mission qui peut relever les défis.
C'est un réaménagement, d'autant plus que le Premier ministre reste à son poste, il n'a pas démissionné.
Il y a eu des postes où vraiment il devait avoir un changement depuis fort longtemps. Et dans le domaine de l'agriculture, ça n'allait pas. Jusqu'à présent, les paysans n'ont pas eu les intrants agricoles.
C'est ça, aujourd'hui seulement que je me suis rendu compte, sinon je ne savais pas.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali se retire du Mali. À Bamako comme à l'intérieur du pays, les populations sont inquiètes par endroits par rapport à l'aspect humanitaire. Pour des observateurs, des dispositions méritent d'être prises par l'État pour combler ce vide. Pour plus de détails, écoutons ce reportage de Moussa Agmahaha.
À Bamako et à l'intérieur du pays, beaucoup se disent inquiets du départ de l'aménagement. Ils estiment que le vide laissé par l'aménagement dans le volet social sera difficilement comblé par le gouvernement.
Mais de manière structurelle ainsi que financière, surtout socio-culturelle, le vide ne sera pas directement comblé.
Moi, je crois que ça va jouer sur l'économie de la région de Gao.
Et l'aménagement est un partenaire qui opère le Mali dans ce sens, car elle emploie plus de 40 sur 100 jeunes Maliens. Imaginez, après le départ de l'aménagement, le taux de chômage va prendre l'ascenseur.
Pour Kadiatou Keïta, analyste politique, les autorités doivent trouver une alternative pour maintenir le cap.
Les personnes qui étaient employées par Barkhane, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont toujours au chômage. Donc, il faudra effectivement, en fait, pour que le gouvernement puisse essayer de définir des stratégies pour l'employabilité.
Il faut rappeler que le départ de l'aménagement a été accepté par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité, suite à la demande des autorités de la transition.
Cannes I23 Maroc 2023, le Mali, les Aigles Espoirs ont arraché leur ticket pour les demi-finales en battant ce samedi le Niger 2-0 au compte de la dernière journée de la phase des groupes. L'équipe malienne affrontera celle du Maroc, pays hôte, demain mardi 4 juillet. Pour des chroniqueurs, le Mali a de fortes chances d'aller en finale. Le point avec Ali Mayatara.
Pour le sélectionneur malien Alou Badra Diallo, il n'y a pas de raison de s'inquiéter car son équipe est mentalement et physiquement concentrée et conditionnée pour affronter le Maroc.
C'est vrai qu'ils sont chez eux, ils ont une bonne équipe, mais nous aussi je pense qu'on va jouer. Nous serons prêts pour les demi-finales. Nous avons vu beaucoup de matchs de l'Égypte et du Maroc. Ils ont de bonnes qualités, nous aussi on n'est pas mauvais. Je pense que ça va être une bonne demi-finale.
Cet avis est aussi partagé par des chroniqueurs sportifs. Pour Amadiar Traoré, la qualité des jeux maliens est bonne, fluide et précise. Selon lui, les Aiglons pourront bien arracher leur ticket de la finale avec brio.
L'entraîneur a préparé quelque chose de bien. Défensivement au niveau de l'entrejeu, avec des joueurs exceptionnels tels que Feno, qui est en train de grandir en puissance. Ça combine beaucoup de mobilité entre les joueurs. Toutes les actions maliennes, tu sens vraiment que c'est des actions préparées, c'est des attaques placées, c'est des attaques rapides avec une lucidité incroyable également.
Notons qu'en cas de succès face au Maroc, le Mali validera à la fois une place en finale et une qualification pour les JO 2024 de Paris.
Une fausse lettre circulaire a été publiée la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Elle soutient que le ministère de la Jeunesse et des Sports invite les autorités maliennes à lever le mot d'ordre concernant l'interdiction de la vente et la consommation de la chicha. C'est le sujet de la rubrique Vérifions de la semaine avec Fatmata Kodjo.
Non, le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a pas invité les autorités maliennes à lever l'interdiction et la consommation de la chicha. Contrairement à la note circulaire publiée mardi 27 juin sur les réseaux sociaux, le ministère en question a fait un communiqué le 30 juin dernier pour démentir l'information. L'auteur initial de cette fausse information reste inconnu. Le chargé de communication du ministère de la Jeunesse et des Sports affirme qu'une enquête est en cours au ministère de la Sécurité afin de poursuivre les auteurs. Cela veut dire que l'arrêté ministériel du 15 février dernier portant l'interdiction de l'importation, de la distribution et de l'usage de la chicha reste en vigueur sur toute l'étendue du territoire malien. Et c'est l'Office central de lutte contre les stupéfiants qui doit veiller au respect de la dite mesure.
La chronique Zoom sur d'aujourd'hui porte sur le jeune vacancier qui n'aime pas participer aux tâches quotidiennes de la famille, notamment les jeunes filles. C'est avec notre chroniqueuse Aïssata Diarra.
Nous sommes en pleine période de vacances scolaires et c'est également l'hivernage dans les pays. C'est une période qui coïncide avec le départ des ménagères dans beaucoup de familles. Une situation qui semble être un véritable cauchemar pour la mère de Mimi et celle de Aïcha. Tous les matins, lorsqu'elles se font réveiller par leur maman pour les tâches ménagères, elles boudent. Eh Seigneur, maman me fatigue quoi? Voilà, je ne vais pas rester dans cette famille. Naturellement, avant d'aller au travail, des tâches leur sont confiées. À peine les mères partent, Aïcha et Mimi se mettent sur les réseaux sociaux. Elles, à leur tour, confient les tâches à leur sœur. Et c'est parti pour les photos, les vidéos challenges et des conversations de longue durée. Par contre, il y a aussi celles qui n'attendent pas des instructions. Depuis le matin, elles s'occupent de tout dans la maison. Il est à rappeler à nos amies jeunes filles qu'être femme ne se limite pas qu'à la beauté physique. La féminité, c'est aussi savoir préparer et entretenir une maison.
À présent, nous recevons Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Imirana.
Quel sujet sera abordé ce soir?
Ce soir, nous allons parler de tuberculose avec le thème « Comprendre et se protéger contre la maladie ». On en parle avec trois invités, professeur Djangina Soumaré, expert en tuberculose, docteur Salif Kone, pneumologue, et Abdoulaye Koulibaly est malade guéri de la tuberculose.
Merci Mariam Maïga et bon débat. Ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilo Maïga. Vous avez donc la possibilité de retrouver ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani. Vous pouvez télécharger cette application sur Play Store. Merci de l'avoir suivi.
Au 16 juillet 2023, vivez en direct de Mopti, la biennale artistique et culturelle du Mali sur Studio Tamani.
Thème de cette biennale, le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin.
Studio Tamani vous fait vivre les temps forts de cet événement culturel national. Des reportages, des interviews, des débats, des retransmissions en direct.
Studio Tamani, toute la voix du Mali.
Selon des agents de la santé, près de 1500 personnes sont décédées suite au paludisme rien qu'en 2022 au Mali. Ils précisent aussi que près de la moitié des consultations dans les structures de santé concernent cette maladie. Les régions les plus touchées sont entre autres Mopti, suivies de Sikasso et de Koulikoro. Selon les autorités sanitaires, deux vaccins développés contre la maladie devraient être disponibles en 2024. Le magazine Santé est réalisé dans le cadre d'une campagne nationale de lutte contre le paludisme, une campagne du ministère de la santé soutenue par le réseau africain de l'éducation pour la santé et la citoyenneté. C'est une présentation de Ali Cissé.
À Mopti, en 2022, 27% des consultations dans les centres de santé étaient dues au paludisme. La maladie était la cause de 26% des consultations à Koulikoro et Sikasso. Dans cette dernière région, des populations témoignent de l'ampleur de la maladie.
En cette saison pluvieuse, nous allons à l'hôpital très généralement ici à Sikasso à cause du paludisme et les moustiques. Les moustiques se multiplient, ce qui provoque beaucoup de paludisme chez les femmes enceintes et les enfants.
Moi, je pars à l'hôpital si j'ai le palu. Une fois à l'hôpital, on te prescrit des médicaments du paludisme et c'est facile à trouver.
Bon, aujourd'hui, c'est le paludisme qui vient régler à l'hôpital.
La région de Koulikoro aussi fait partie des zones touchées. Pour Sidi Niaré, médecin-chef du district sanitaire de la région, plusieurs facteurs expliquent cette forte prévalence du paludisme. Il insiste en particulier sur le comportement de la population.
Cette augmentation pourrait s'expliquer en grande partie par la multiplicité des acteurs, que ce soit le secteur public, le secteur privé, et aussi les ONG qui font des dépistages communautaires. On a une complétude assez suffisante de données. Ça peut s'expliquer aussi par le comportement aussi de la population. Nous savons que c'est une maladie transmise par le moustique. Il y a des moyens de prévention qui sont là, qui malheureusement sont disponibles, mais qui ne sont pas utilisés à hauteur de soi par la population.
Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus exposés à la maladie. C'est pourquoi des stratégies comme la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes et des campagnes de vaccination pour les enfants ont été initiées. Docteur Amadou Goïta, chef de projet Paludisme Fonds Mondial, Arcade Santé Plus.
En plus de la distribution gratuite des moustiquaires, il y a également le traitement préventif intermittent qui se fait avec la sulfadoxine pyrimétamine qui est gratuite aussi. Et en ce qui concerne les actions de prise en charge, nous avons la mise à disposition pour ne pas la gratuité aussi du traitement du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes.
Le programme national de lutte contre le paludisme est à l'avant-garde du combat contre cette maladie. Selon sa directrice, les campagnes initiées par le programme visent à protéger 80% de la population contre le paludisme. Colonel Aïssata Kone affirme qu'il n'y a pas de rupture de médicaments.
La rupture, ça dépend de l'organisation même du service. Par rapport au vaccin, le premier vaccin d'abord qui est en vigueur, ça c'est le vaccin RTSS et le Mali a déjà soumis. Et si tout va bien, en 2024, nous allons faire l'implémentation de ce vaccin. Il y a un autre vaccin aussi en vue qui est le R21, mais pour le moment, nous attendons juste l'homologation de l'OMS pour pouvoir acheter aussi ce vaccin.
Au niveau du Centre de recherche et de formation sur le paludisme, MRTC, des innovations sont en cours pour rendre la moustiquaire plus résistante. Docteur Koulibaly est l'adjoint au directeur du centre.
Au début, la moustiquaire était imprégnée en utilisant un seul insecticide. Aujourd'hui, il y a les chercheurs qui ont déjà développé des moustiquaires qui ont deux éléments, soit un insecticide plus un synergisant, c'est-à-dire que c'est un autre élément qui va booster l'effet de l'insecticide. Donc ça, c'est une première innovation. Mais on a compris très vite que même à ce type de moustiquaire aussi, il y a des résistances qui sont développées chez les moustiques. Donc maintenant, les moustiquaires de dernière génération vont avoir deux types d'insecticides avec des modes d'action différents. Ça, c'est une innovation qui est en cours d'implémentation.
Le Centre de recherche et de formation sur le paludisme a annoncé la disponibilité prochaine de deux vaccins. Les premières doses de ces vaccins sont attendues avec impatience par la population. Il faut noter qu'en 2022, près de 4 millions de cas de paludisme confirmés ont été diagnostiqués au Mali selon le Programme national de lutte contre le paludisme.